Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter comme chaque week-end des extraits des temps forts de cette semaine. Et on commence tout de suite avec le Loft Music. Lundi, Yvan Cujus recevait la belle Clara Morgan, venue présenter sa réinterprétation du fameux tube des Pointer Sisters, I'm So Excited, version jazz. Un véritable succès et un style totalement inattendu pour celle qui dit d'elle-même qu'elle n'est pas une chanteuse à voix. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Bonsoir Clara Morgan, merci
Bonsoir,
d'être là.
Bonsoir, vous allez bien?
Ouais, ça va très très bien. Bonsoir, merci d'être là Clara. En plus on est raccord parce que, évidemment, je l'ai présenté tout à l'heure en début d'émission, il y a Valérie Zetoun, ce producteur mythique.
Que j'aime beaucoup.
Et oui, il y en a plein qui l'aiment, d'ailleurs tout le monde se l'arrache et moi je l'ai sur mon plateau, donc je suis quand même super vénard, je suis bien conscient. Et on était raccord parce qu'on écoutait les vieilles canailles, un petit extrait de la production, de l'une des productions de Valérie, version swing big band, et on est très raccord avec cet esprit de cette chanson, de cette reprise que tu as faite Clara Morgan, qui va justement puiser dans cette idée des années 30, 40...
Tu peux m'appeler Clara, tu peux m'appeler Clara.
Oui, oui, j'ai dit Clara Morgan, c'est ça? Ouais, moi j'adore, c'est un péché mignon, ça. C'est mon plaisir à moi de dire Clara Morgan. Et c'est pas pareil, c'est pas pareil que de dire que Clara. Et en fait, on replonge dans les années 30, cet arrangement nous fait penser à ces orchestres mythiques auxquels je pensais tout à l'heure. Et finalement, cette idée de cabaret aussi que tu proposes en ce moment ramène tout autant à ces années. Le cabaret, c'est une notion des années 30, des années 40, etc. Il y a quoi, une fascination chez Clara Morgan pour cette époque-là?
En fait, tout a commencé avec une pièce qui était sous la direction de Nicolas Briançon qui s'appelait Cabaret Canaille. Et nous lisions des textes de grands auteurs comme Théophile Gautier, Maupassant, etc. Mais qui étaient des textes licencieux. Et je chantais
c'est joli, ça,
également...
C'est terme licencieux, que c'est beau ça, licencieux. Pardon Clara. Pardon.
Il
aime les mots Valérie, donc je sais que ça, ça lui plaît. Ce licencieux lui plaît.
Et voilà, et de chansons un peu paillardes, etc. C'est moins joli comme mot, hein, vous avez remarqué.
Ah non, ça évoque des choses.
Ouais. Voilà, c'était mis en musique par Gérard Daguerre, qui était un des pianistes qui a accompagné Barbara pendant des années. Et si vous voulez, j'ai fait cette rencontre qui a changé quand même et orienté en tout cas ma vie, puisque en entendant ma voix, alors je ne suis certes pas une grande chanteuse, mais
c'est quoi une grande chanteuse, Clara Morgan? C'est quoi une grande chanteuse? Tiens, c'est quoi une grande chanteuse? Je vais te poser la question à Valérie Zetoun.
Je ne suis pas une chanteuse à voix. Voilà.
Ah, mais c'est pas une grande chanteuse, c'est pas une chanteuse à voix, forcément.
Oh, si, quand même.
Ah bon?
Par exemple, dans mon cabaret, j'ai une chanteuse à voix qui chante extrêmement bien. Vous savez, elle peut chanter des chansons de Maria Carré, tout ça, et peut-être même mieux qu'elle, en tout cas aujourd'hui. Et moi, je sais ce qu'est une chanteuse à voix, chose que je ne suis absolument pas. Par contre, je pense savoir raconter des histoires et emmener le public. En tout cas, c'est ce que je fais depuis 4 ans avec mon cabaret.
Et oui.
On cherchait donc une chanson avec Gérard Daguerre, qui était en même temps connue de tous, un petit peu spicy, comme on dit, et en même temps qui pouvait, si vous voulez, être remixé, mais avec un intérêt. Parce que si vous voulez, si c'est reprendre exactement la même version, ça ne sert pas trop à grand-chose. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, justement, au lieu d'accélérer les choses comme d'habitude, la ralentir et en faire une version jazz. De là, ça m'a amené, si vous voulez, au Palais des Congrès avec 17 musiciens.
Studio
et j'ai découvert le Big Band.
Ouais,
voilà.
Et oui, la découverte du Big Band. C'est pas le Big Bang.
C'est ça qui m'a amené au cabaret.
Enfin, le Big Bang, ça c'était découvert depuis plus longtemps, c'était le Big Band. Et c'est toujours, c'est souvent fait, hein, c'est que les versions, les Big Bands reprennent souvent des grands standards et donnent une couleur totalement intéressante et très marquée comme ça.
En tout cas, c'est très différent de la version initiale des Pointer Sisters.
Ouais, c'est clair, en 84. C'est vrai qu'elle chante bien, Clara. Enfin, c'est marrant qu'on dise Valérie Zetoun. Je rebondis sur ce que disait Clara Morgan tout à l'heure. Elle dit « je suis pas une chanteuse à voix ». Ces mots qu'on associe, chanteur à texte, chanson à texte, chanteur à voix, c'est assez paradoxal. Dire chanteur à voix, ben ouais, chanteur, il a une voix. Et chanson à texte, Valérie Zetoun.
Non, mais
c'est très français de dire ça.
Oui, parce que ça fait 20 ans qu'on explique que pour être un ou une artiste...
Allez, énerve-toi, il faut aller direct.
Il faut écrire ses chansons, c'est une connerie.
Et Clara, j'en ai écrit, Valérie, et tu le sais très bien, et il aime bien une certaine chanson qui s'appelle Nuit Blanche, je crois.
Oh. Oui, sauf que Clara, elle a un truc que... Elle a un truc qui fait d'elle une artiste, c'est que c'est une personnalité. Et c'est une personnalité, et elle est dans l'histoire de la France. Clara Morgan, on dit Clara Morgan au fin fond de la campagne, à Paris, en Belgique ou n'importe où. Tout le monde la connaît. Donc c'est une personnalité. Et elle a prouvé, là, avec sa reprise des Pointer Sisters, que sans avoir les trois voix des Pointer Sisters, elle est capable, elle toute seule, de remplacer les trois chanteuses d'origine. Ouais. Et ça, c'est notable.
C'est un joli compliment, ça, Clara Morgan. C'est vrai que...
C'est un énorme compliment. Je te remercie, Valérie.
Dans ce que dit Valérie Zetoun, il y a cette idée, justement, que je pense que tu déclines, c'est de ne pas être là où on t'attend. C'est-à-dire que tu aimes dire que tu te sens en liberté, tu fais ce que tu as envie de faire, et finalement, tu vas totalement décomplexer. Parce qu'à un moment donné, c'est pas
il faut bien...
Tu vois, tu t'attaques à un truc avec un Big Bang, bon, faut y aller, quoi. Si tu n'as pas peur, en fait, de prendre des risques, d'être à côté du truc,
je
quoi.
Je pense que c'est notre place. Je me considère comme une artiste aujourd'hui. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce métier, que j'ai proposé quand même plein de choses, que ce soit de la musique, de la photographie, etc. Donc je suis en tout cas une créative. Pour ceux que ça dérangerait le mot artiste, je suis une créative.
C'est intéressant aussi.
Je mène une troupe. Ouais. Comment ?
Non, je dis c'est intéressant de dire pour ceux qui seraient dérangés par le mot artiste. En quoi ça peut être dérangeant chez certaines personnes de dire artiste ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Mais je vais vous répondre très simplement. C'est que je ne suis pas arrivée en étant chanteuse. C'est-à-dire que les gens qu'on découvre en tant que comédien, on aime bien qu'ils restent comédiens. Les gens qu'on découvre en tant que chanteur, on aime bien qu'ils restent chanteurs. C'est vrai qu'on c'est un pays où on a un peu du mal à voir des gens entertainment comme moi, qui essayent des choses, qui s'amusent et qui sont libres. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus envie de déranger, mais je suis une créative et ça, on pourra pas me l'enlever.
Mais ce qui est super, c'est quand l'artiste dérange, justement. C'est une grande qualité de l'artiste, c'est de déranger, précisément.
Non, mais ce qui est intéressant, et là où... Là où Clara a raison, c'est que elle s'est fait connaître dans une première discipline, et puis elle l'a justement dit, ça fait 20 ans qu'elle est là. Si ça fait 20 ans que les gens la connaissent, c'est que ça fait 20 ans qu'elle fait des choses et qu'elle se recrée à chaque fois. Et ça, c'est important. On parlera des jeunes artistes tout à l'heure. Mais une carrière, ça se fait là-dessus aussi. Ça se fait en étonnant le public, en allant là où le public ne nous attend pas. Et y a un départ, mais pour durer, eh ben, il faut savoir se recréer. Et bravo Clara, tu sais le faire. Et merci. Je te félicite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cusius et ses prestigieux invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débriefé l'investiture de Joe Biden. Et avec l'invité la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, le journaliste, écrivain et acteur Christophe Bourseiller. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est un plaisir de vous accompagner et d'écouter avec vous les meilleurs extraits des émissions de cette semaine, comme mercredi dans Les Vraies Voix. Lors de leur traditionnel débat, Philippe Rossi et ses chroniqueurs, ainsi que Gretchen Pascalis, porte-parole des démocrates en France, ont débriefé l'investiture de Joe Biden et ensemble, ils se sont demandé s'il était encore possible de réconcilier l'Amérique.
Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
Dans son discours, Joe Biden salue une journée d'espoir, il salue la résilience américaine. « Nous sommes des gens bien », a dit le 46e président des États-Unis. C'est un jour de renouveau et d'espoir. Bonsoir Gretchen Pascalis.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio, porte-parole des Democrats Abroad Friends. Réconcilier l'Amérique, mission impossible pour Joe Biden.
Après quatre années de
Donald Trump, oui.
Oui, je ne dirais pas que c'est impossible, mais bien entendu, c'est une tâche énorme. C'est assez souvent au changement politique aux États-Unis que le nouveau président, il parle du fait qu'il faut rassembler le peuple. C'est pas nouveau, mais vraiment, cette année, c'est plus urgent que jamais. Et je pense qu'il peut, commençant avec un discours comme ça, je pense qu'il va vraiment dans ce sens-là. Il veut être un président de tout le peuple, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et même la couleur choisie de Kamala Harris, de propre du violet, sans sens. Parce que si on mélange le rouge républicain et le bleu démocrate, on a du violet.
Mmh. Comment vous avez vécu cette cérémonie d'investiture? Qu'en avez-vous pensé le discours de Joe Biden?
Ça m'a vraiment touchée. C'est vrai que Biden n'est pas un orateur comme Obama, mais ce n'est pas grave. C'était un très joli discours. Biden qui est malheureusement connu pour sa bégaiement, pour ses gaffes. Il était vraiment très posé, très sincère. Il parle avec son cœur ouvert. Et ça, on n'a pas entendu un discours comme ça depuis Obama, malheureusement.
Mmh. Philippe Bilger, tiens, je vais vous demander aux vraies voix comment vous avez vécu cette cérémonie d'investiture que vous avez vécue dans les vraies voix sur Sud Radio. Philippe Bilger.
Tout à l'heure, j'ai fait un cauchemar, je me disais, mais au fond, Donald Trump serait parfaitement capable de revenir pour manger la gloire sur le dos de Joe Biden et créer un désordre lors de cette intronisation. Mmh. Mais moi, j'ai bon espoir en définitive que Joe Biden réussisse au moins en partie à restaurer une tranquillité américaine. La seule chose qui m'inquiète un peu, et encore une fois, j'estime beaucoup sa personnalité, c'est que c'est un être à l'évidence très sensible, qui pleure beaucoup, qui est très émotif. J'espère qu'il aura la stature, dans un monde très réaliste, voire cynique, sur le plan national comme international, pour tenir la dragée haute à tous ceux qui menacent la démocratie. Le dernier élément, ouais. Philippe, très vite, c'est que la grande chance de Joe Biden, c'est que sur un certain plan, il a un immense champ confortable devant lui. Il est évident que Donald Trump, qui n'a pas été médiocre surtout dans le reste, a laissé un tel vivier pour une action positive que Joe Biden, d'une certaine manière, va connaître dans les débuts une voie royale.
Françoise de Gouin.
Moi, je partage pas tout à fait le point de vue de Philippe Bilger. Si ce n'est
sur la sensibilité.
Sur la personnalité remarquable. Moi, ce n'était pas ma tasse de thé. J'ai toujours préféré, évidemment, Bernie Sanders. Je trouve que Joe Biden ne fait aucun faux pas et ce n'était pas évident. Gretchen pourra peut-être aller dans mon sens. Je pense que le discours qu'il fait le soir de l'insurrection et de la sédition du Capitole est remarquable. C'est un discours sans notes. C'est un discours qui est à l'échelle de l'histoire et c'est un discours extrêmement ferme. C'est-à-dire que derrière cet être qui a résilié pour toutes les raisons qu'on sait, sa personnalité, son histoire est juste fascinante à Joe Biden, eh bien, ce personnage fallot ne l'est pas. Et je pense que c'est vraiment le bon président pour le bon moment, pour la bonne Amérique. Je suis absolument certain. Il ne se crispe pas sur les choses, Joe Biden. On sent qu'il lâche, on sent qu'il a cette capacité d'englober. Je suis absolument persuadé, moi, qu'il a aussi la fermeté, parce qu'on ne devient pas président des États-Unis pour rien. Et je suis certaine qu'il va réussir. Ouais. J'en suis sûre parce que je pense que c'est la bonne personnalité qu'il faut. Ne pas jeter de l'huile sur le feu, tendre la main inlassablement, essayer de réconcilier cette Amérique qui n'est peut-être pas si fracturée que ce qu'on veut bien en dire, mais en tout cas, mettre du baume sur les plaies. Et je pense que ça va être un très bon médecin de l'Amérique, Gretchen. C'est ça que je pense. Parce que...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Joe Biden, en fait, on peut regarder toute sa vie, toute sa carrière, qui montre qu'il a l'habitude de travailler de façon rassembleur avec ses collègues républicains. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses émotions et c'est ce qu'on a vraiment besoin, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Ce n'est pas que les femmes qui pleurent. Ce n'est pas que les hommes faibles qui pleurent. Pleurer, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et de montrer ses sentiments après 4 ans de quelqu'un qui vit comme l'image masculine très ancienne et destructive, on a passé ce moment-là et on a vraiment besoin de quelqu'un qui peut montrer qu'il est sensible.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Dans le petit déjeuner de l'actu, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient le journaliste, écrivain et acteur Christophe Bourseiller, venu présenter son livre « Nouvelle histoire de l'ultra-gauche ». Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Christophe Bourseiller, juste avant la pause, on se disait, que veulent-ils ? Ils veulent quoi ? Donc, le chaos, l'anarchie, en fait,
écoutez,
c'est ça ?
Ils ont un programme, mais qui est évidemment un programme qui peut sembler un peu utopique, puisque l'idée, en réalité, ce n'est pas de prendre la direction des luttes. L'idée, c'est par la violence symbolique qu'ils exercent, enfin réelle, mais symbolique, c'est de montrer l'exemple. Donc le rêve, leur projet, c'est que les travailleurs, les voyant attaquer le capital, s'y mettent aussi s'emparent de barres de fer et aussi s'attaquent à l'État, que les travailleurs, donc spontanément mus par cet exemple, prennent d'assaut l'Élysée, qu'ils instaurent de façon spontanée, c'est là où ça devient utopique, le communisme, c'est-à-dire l'abolition du salariat, et qu'ils fondent une fédération internationale de conseils ouvriers. Donc les conseils ouvriers, c'est quoi ? Ce sont des assemblées générales de travailleurs élus irrévocables. Oui. Donc ils sont dans un projet horizontal parfaitement utopique, ce qui fait que leur violence, c'est vrai, peut s'apparenter à du nihilisme.
Oui, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils aient profité en partie simplement du mouvement des Gilets jaunes. Ils auraient pu davantage pousser leur avantage pour détruire davantage. Ils ont essayé, ils ont cassé, mais ils ont discrédité le mouvement. Quoi.
Bah, ça, c'est ce qui leur arrive en général, mais disons que pour eux, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une réussite politique, parce que certes, ils ont été rejetés par une grande partie des Gilets jaunes, mais il y a une petite partie des Gilets jaunes qui s'est mis à casser avec eux. On se souvient de l'épisode du Fouquet's ou d'autres. Bah, il y avait ceux qui ont pris d'assaut l'Arc de Triomphe, il y avait effectivement des Black Blocs, mais il y avait aussi des Gilets jaunes. Et ceux qu'on appelle d'ailleurs depuis lors, c'est un nom un peu que les journalistes leur ont donné, les ultra-jaunes. Mais les ultra-jaunes, ça existe, et ça, c'est une réussite. Mais régulièrement, c'est les gens qui les autonomes, ceux qui se constituent en Black Bloc, tentent depuis toujours de passer des accords. Alors, soit avec des bandes de banlieue, soit avec des hooligans des stades, pour justement se rapprocher du peuple, en quelque sorte. Car eux, au fond, en font-ils partie ? C'est pas totalement sûr, parce que ce sont des jeunes gens...
Souvent en marge.
Généralement,
alors oui, qui sont-ils vivent-ils ?
Ce sont des gens, d'abord, généralement blancs, bien éduqués, issus des classes moyennes. Alors, classe moyenne, parfois inférieure, mais classe moyenne, parfois supérieure, qui sont plutôt fortunés. Ce sont des gens qui sont en général très diplômés, c'est-à-dire qui ont vraiment bac plus 5 au moins, qui ont fait des études. Et vous savez, il faut avoir fait des études pour arriver à comprendre les textes. Ouais. Parce que les textes théoriques de l'ultra-gauche, c'est des textes complexes, passionnants. Mais vous savez, pour lire Castoriadis, Lefort, Guy Debord et j'en passe, Paul Matic ou Karl Korsch, croyez-moi, il faut avoir un bagage universitaire. Les prolétaires sont un peu laissés sur le côté, si vous voulez.
Oui. Et donc, y en a, bien sûr, les plus modestes.
Oui, il y en a, bien sûr. Dans ces groupes-là, vous savez, vous avez deux types de gens. Vous avez généralement les têtes pensantes, qui, eux, sont plutôt issus de milieux favorisés, il faut dire, ne serait-ce que culturellement. Et puis, vous avez les gros bras. Et les gros bras, eux, en général, sont plus des gens plus prolétaires, moins cultivés, tout simplement, qui deviennent les bras armés des premiers.
Oui, alors on dit, justement, sur l'extrême gauche, que parfois, elle pourrait rejoindre l'extrême droite. D'ailleurs, il y a des transferts.
Il y a des transferts, ça peut arriver.
Ça peut être la même chose aussi entre l'ultra-gauche, donc qui est à la gauche de l'extrême-gauche, et l'ultra-droite qui est à la droite de l'ultra-droite.
Alors oui, disons que c'est toujours possible qu'il y ait des transferts individuels.
Oui.
Mais enfin, sur le plan des idées, ils se combattent plutôt à coups de poing. On l'a vu d'ailleurs pendant le mouvement des Gilets jaunes, où en fait, vous aviez des moments où personne ne pouvait comprendre, où vous disiez, c'est bizarre, les Gilets jaunes se battent entre eux. C'est parce que vous aviez des Gilets jaunes d'extrême-droite qui se battaient avec les Gilets jaunes d'ultra-gauche. Et les Gilets jaunes d'ultra-gauche, d'ailleurs, ont pris le dessus.
Mais alors, comme ils veulent aller vers le nihilisme, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, ils pourraient peut-être se retrouver là, non ? Pas vraiment ?
Pas vraiment, parce que c'est pas les mêmes, vous voyez. Moi je suis toujours une espèce de... Je m'intéresse à ces groupes très particuliers. Il faut dire que ce qu'on appelle l'ultra-droite, je voudrais quand même dire pour moi ce n'est pas l'extrême droite, vous voyez. Pour moi l'ultra-droite, c'est un phénomène assez récent, assez particulier, et le phénomène de l'ultra-droite est lié en fait à la prise de pouvoir de Marine Le Pen au Front National au début des années années 2010. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est emparée du Front National et qu'elle a transformé en Rassemblement National? Elle a viré les plus radicaux qui étaient au Front National et que son père tolérait. Et beaucoup d'adhérents les plus activistes, les plus cinglés, ont quitté le Front National. Et dès lors que tous ces gens quittaient le Front National, bah, c'était des gens pas très, un peu incertains, on va dire, psychiquement. Ouais. Et ils se sont retrouvés dans la nature. Et à partir de là, on a vu apparaître des petites nébuleuses de gens qui n'étaient pas structurés idéologiquement comme l'extrême droite. Pardon. Si vous regardez bien tous ces groupes, l'action des forces opérationnelles, ils ont des noms invraisemblables, c'est des gens qui disent « Ah bah faut lutter contre les immigrés, il faut les virer !» Vous voyez, ils sont dans une rhétorique très simpliste, alors que l'extrême droite traditionnelle, bah, c'est un peu comme l'extrême gauche. Il y a des nationalistes révolutionnaires, des nationalistes catholiques, des royalistes. Enfin, c'est des nébuleuses idéologiques très construites. Et là, c'est pas du tout construit. Ouais. Donc, je pense qu'on est plus là dans un effet tardif de la prise de pouvoir de Marine Le Pen au sein du Front National.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer des ponts avec des partis plus traditionnels? Justement, on voit que les écolos sont un peu plus radicaux qu'ils ne l'étaient avant. Est-ce qu'il y a de la récupération qui serait possible?
Oui, ben c'est toujours possible. Alors là, il faut mettre de côté l'ultra-gauche. Mmh. Parce que l'ultra-gauche restera toujours dans sa radicalité. Oui. Et jamais l'ultra-gauche ne passera d'accord avec, à part les jeunes des banlieues éventuellement, ou quelques hooligans, mais ça s'arrêtera là. Ou d'autres groupes ultra-gauche.
Les jeunes des banlieues aussi, ah oui.
Ça peut arriver, s'ils l'obtiennent, bien sûr. Maintenant, effectivement, oui. Sinon, l'extrême-gauche, d'ailleurs, tout comme l'extrême-droite, ont tendance à avoir des stratégies d'entrisme, d'abord, et puis des stratégies de convergence. Mmh. Et l'idée, c'est de faire exploser le plafond de verre, c'est de faire exploser les cordons sanitaires, c'est de faire en sorte que tout ça se mélange le plus possible. Et donc, ils le font. Vous savez, un des phénomènes les plus inquiétants, je crois, en France aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais, moi, l'extrémisation de la société. Mmh. Ouais. C'est-à-dire cette violence qui monte, le fait que des idées qui viennent des extrêmes se répandent dans la société en se diluant. Vous savez, Donald Trump, c'est intéressant parce qu'il est quand même devenu président des États-Unis avec des idées qu'il partageait avec des petits groupes ultra-droite, justement, comme par exemple les Proud Boys, des gens comme ça. Mais c'est assez frappant qu'il ait réussi à venir au pouvoir. Ça témoigne pour moi de cette extrémisation de nos sociétés.
Et la France n'est pas à l'abri, effectivement, de ça, d'un côté ou d'un autre.
La France n'est pas du tout à l'abri d'un moment de même nature.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous, on va revenir dans une poignée de minutes avec André Bercoff et son invité, la journaliste et anthropologue Sylvie Lasserre. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Sylvie Lasserre, on va s'écouter un très beau titre de Francis Cabrel. Le chanteur aux 14 albums nous propose ici, comme toujours, des paroles superbes et une mélodie pleine d'émotions. Voici Le Peuple des Fontaines sur Sud Radio.
J'ai confié ma peine au peuple des fontaines pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui finissent pas. Des rues où je traîne toujours, toujours, toujours me reviennent ces instants trop courts. Le Rhône ou la Seine, Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Sachent où ça mène. peine, dites-moi. Vous qui en avez tant écouté, vous qui ne sauriez pas mentir, est-ce qu'elles savent pardonner ces belles pour qui l'on respire? Les avez-vous vus s'approcher, pencher sur vos reflets saphirs, dire qu'on peut tout recommencer, chercher bien dans vos souvenirs. Confier ma peine au peuple des fontaines, pour qu'un jour me revienne le bruit de tes pas. Je donnerai tout Göttingen, toutes les Suzanne de Cohen, pour ce jour béni. Suzanne de Cohen, pour ce jour béni où tu me reviendras.
Le peuple des fontaines dans le meilleur de Sud Radio, très beau titre de Francis Cabrel, extrait de son nouvel album À l'aube revenant. Allez, on poursuit maintenant avec André Bercoff dans Tous ses états. Mercredi, l'animateur recevait pour son face-à-face Sylvie Lasserre, journaliste, reporter et anthropologue spécialisée dans l'Asie centrale et le monde turcophone, venue présenter son livre « Voyage au pays des Ouïghours », un livre passionnant qui tire la sonnette d'alarme sur ce peuple en danger. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour Sylvie Lasserre.
Bonjour André
Bercoff. Bonjour, écoutez, je suis très content qu'on se retrouve parce qu'on avait eu quelques problèmes techniques la dernière fois où j'avais déjà, effectivement, on avait déjà parlé de cela et malheureusement on a dû s'interrompre. Donc voilà, Voyage au pays des Ouïghours, effectivement, un livre passionnant. Et vous avez enquêté, vous avez été sur le terrain et les journalistes qui vont sur le terrain, c'est la chose la plus importante, l'humanité la plus importante. Je ne fais pas de hiérarchie, mais je dis que, vous savez, le premier métier du journaliste, on le fait, c'est d'aller enquêter. Alors, je voudrais qu'on rappelle un tout petit peu ces Ouïghours qui vivent dans le nord de la Chine. D'abord, qui sont-ils, ces Ouïghours?
Alors, c'est un peuple turcophone, un peuple turc.
Oui.
Il faut savoir que les peuples turcs sont originaires de l'Altaï. Ce sont des montagnes aux confins du Kazakhstan, de la Mongolie, de la Chine. Et selon la légende, les peuples turcs sont nés d'un loup ou d'une louve. Et ensuite, ils se sont répandus...
Comme les Romains, Romus et Rémulus.
Non, mais, c'est encore un autre loup.
Non, je sais.
Et ils se sont répartis en plusieurs hordes, donc il y a des Ouzbeks, il y a des Kazakhs, il y a des Kirghiz, des Turkmènes. Ensuite, ils sont allés jusqu'en Anatolie, en Turquie. Et les Ouïghours, eux, étaient en Mongolie. Donc voilà, alors avec tous ces peuples, ils partagent un même langage, ils peuvent se comprendre plus ou moins selon les...
Avec tous ces peuples turcmènes et ouzbeks, tout ça, tous ces peuples-là que vous avez cités.
Ils parlent un peu la même langue. Enfin, si on connaît une langue, on arrive facilement à comprendre l'autre langue.
D'accord.
Et les Ouïghours, eux, étaient établis sur l'actuelle Mongolie, à Karabalgasun. Donc c'était florissant, vraiment une civilisation florissante. Et en l'an 840, ils ont été chassés par des Kirghizes de l'Yénisseï. Donc tout ça, c'est à cheval, etc.
Oui.
Et à ce moment-là, ils se sont rabattus sur leur actuelle région.
Le Xinjiang d'aujourd'hui.
De toute façon, des attaches.
D'accord, c'est le Xinjiang d'aujourd'hui, c'est ça?
Oui, à peu près. Enfin, disons qu'ils étaient dans le nord. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Xinjiang d'aujourd'hui, ce sont des oasis. Comme un collier de perles autour du désert du Tarim.
D'accord.
Donc à l'époque, il n'y avait pas de Xinjiang, il n'y avait pas de pays, c'était vraiment des oasis, il y avait Par exemple, à Kashgar, c'était, c'était dirigé par un despote, enfin, vers au 19e siècle. Oui. Voilà. Ensuite, enfin, je ne sais pas si vous voulez que je continue dans l'histoire.
Non, je crois, c'était juste pour situer qui étaient ces Ouïghours. Et alors, la question, là, Sylvie Lasserre, comment vous avez commencé à enquêter quand, à y aller quand, vous-même ?
Moi, j'y suis allée en 2007. En 2007, une seule
d'accord.
fois.
D'accord.
Et vous y... Parce que j'avais entendu parler d'eux par hasard en 2004, quand j'étais au Kirghizistan.
Oui.
Et j'arrivais pas à comprendre qui était ce peuple, et ça m'intrigue un peu parce qu'on m'avait dit Ouïghours, bon, ils sont un peu comme nous, mais ils sont en Chine, voilà. Mmh. Et quelques temps plus tard, enfin ça je raconte dans mon livre,
oui.
J'étais à une conférence, enfin une projection suivie d'une conférence, et à l'issue de la conférence, un jeune homme a levé la main pour poser une question en disant « moi je suis Ouïghour », et puis il a posé sa question. Donc inutile de vous dire que j'ai...
Que vous vous êtes précipité sur lui.
Ouais. Ouais. Et puis on s'est revus, et c'est lui qui m'a parlé de tout ce qui se passait en fait.
D'accord.
Qui m'a parlé de Rebia Kadir, la mère des Ouïghours, une femme exceptionnelle, etc. Et à partir de là, j'ai décidé qu'il fallait que je la rencontre, parce que ça pouvait faire un très beau portrait. Par exemple, j'ai fait son portrait pour Le Monde 2 de l'époque. Mm-hmm. Et puis ensuite, j'y suis allée pour me rendre compte sur place de ce qui se passait vraiment.
Alors justement... Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Parce qu'on entend de temps en temps, effectivement, des reportages, on entend quelques documents qu'il y a eu, mais enfin très furtifs. Et qu'est-ce qui se passe vraiment ? Aujourd'hui, disons. Enfin, aujourd'hui, depuis quelques temps.
Il faut distinguer, il y a vraiment deux parties. Il y a jusqu'en 2014, à peu près, on peut dire comme ça.
Oui.
Et puis, il y a avant. Alors, avant, c'était quand j'y suis allée. C'était déjà très difficile. Il y avait une discrimination énorme entre les Han et les Ouïghours. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, la région était quasiment peuplée d'Ouïghours uniquement. Mmh. Et de plus en plus, il y a une colonisation massive de Han qui est orchestrée par Pékin, bien sûr, oui. pour commencer justement à mélanger cette population. Mmh. Donc tout ça, c'est des plans à très long terme.
Bien sûr.
Et...
Je ne dirais pas épuration ethnique, ni grand emplacement, mais enfin, voilà.
Ça fait partie, voilà. C'est une des premières phases, si on peut dire.
D'accord, d'accord.
Donc, discrimination à l'emploi, c'est-à-dire qu'à niveau de qualification, et même pas égal, souvent supérieur, les Ouïghours avaient des postes subalternes par mmh. rapport à des Han qui avaient des postes, un niveau d'études inférieur.
D'accord.
Enfin, même à l'époque où j'y étais, on leur prenait les passeports pour les empêcher de voyager.
Donc, vous l'avez constaté, ça. À l'époque où vous y étiez, vous l'avez constaté.
Non, justement, quand vous allez là-bas, vous ne voyez pas tout ça.
D'accord.
Vous ne voyez pas tout ça. Hmm. Si vous ne parlez pas avec les gens, vous revenez. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, ben non, moi, j'y suis allée, tout avait l'air très bien. Bon. Hmm. Donc, c'est toujours pareil. Dans les dictatures, ça ne se voit pas.
Bien sûr.
La seule chose que vous remarquez peut-être, c'est que les gens ne sont pas souriants. Ça m'a frappé. J'étais aussi allée au Turkménistan et c'était pareil. Vous voyez des visages fermés et c'est la seule chose qui peut vous mettre le...
Ouais, la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille, voilà. Mmh. Enfin, donc, mais maintenant, aujourd'hui, depuis 2014, enfin bon, Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2013, c'est là que ça a commencé vraiment à changer. Ensuite, Cheng Kuang-guo... est devenu secrétaire du parti communiste en 2016, c'est devenu l'horreur. Alors là, il y a vraiment, vous voyez des soldats, vous voyez des policiers, des postes de police partout, des checkpoints pour aller au supermarché, vous passez par 3 checkpoints, des caméras partout, reconnaissance faciale, enfin bon...
Tout cela.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Berkoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Allez, je vous propose qu'on écoute maintenant un extrait du 10h midi de Valérie Expert. Dans le traditionnel tour de table, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur la nouvelle série Netflix Lupin, la série française qui explose les compteurs et qui devient la deuxième série la plus vue de toute l'histoire de Netflix. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Commençons par un tour de table de ce qui a retenu votre attention. Mehdi, on va commencer avec du léger avec vous.
Ah bah oui, du léger, du divertissant pour le coup, puisque les cinémas et les théâtres sont toujours fermés par la ouais. volonté solitaire et de Jean Castex. Mmh. Puisqu'on est coincé donc avec les enfants et Netflix à la maison. Mmh. Et donc, mon coup de cœur du jour donc, n'est pas un coup de gueule, c'est ouais. un coup de cœur. Ouais. C'est la nouvelle série de Netflix avec Omar Sy. Mmh. À la fois d'abord parce que c'est une super réussite française qui est plébiscitée dans tous les pays du monde, de l'Allemagne aux États-Unis, en passant par le Brésil, ils sont numéro un absolument partout, au Canada, etc. Bon. Mais surtout parce que c'est une série, alors très pas, évidemment, je ne vous divulgue ouais. pas, non. je ne vous divulgage pas, parce non. que c'est le
oui,
mot.
Oui, absolument, le mot français.
La série, néanmoins, il ouais. y a un héros et une star dans cette série, c'est Omar Sy bien sûr, mmh. mais c'est pas que Omar Sy, c'est surtout le livre, et ouais. c'est surtout les aventures d'Arsène Lupin, dont les éditions sont en train d'exploser, les rééditions, et ce qui est très intéressant dans cette série, pour le coup, c'est que le vrai héros, c'est le livre, et c'est une série qui donne envie de lire, ouais. et j'ai trouvé quand même assez remarquable. Dans cette période, Netflix, c'est pas le service public, hein, c'est ouais. pour le coup, on fait pas plus privé que ça, mais d'oser faire une série qui soit une série qui revisite le patrimoine français de façon extrêmement intelligente, je trouve. C'est pas Omar Sy n'incarne pas Lupin dans une fiction historique, c'est quelque chose de très moderne, c'est un héros très moderne, c'est contemporain, ouais. ça se passe aujourd'hui. Mais surtout, je pense que beaucoup de gamins vont avoir envie, et même des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, moi c'est le cas par exemple, de se replonger dans les aventures d'Arsène Lupin.
Ouais.
C'est vraiment, toute la série est construite autour de ça et c'est assez bien fichu, je dois le dire. Ça fait plaisir que le livre
Et il faut dire, alors je me souviens plus du troisième, mais que les meilleures ventes de livres sur Amazon, il ne faut pas acheter sur Amazon, enfin il ne faut pas acheter sur Amazon quand on n'a pas le choix, mais allez chez votre libraire. Mais en tout cas, les trois meilleures ventes de livres sur Amazon concernent des séries de Netflix. Donc il y a Lupin pour Arsène Lupin et il y a la chronique des Bridgerton. Troisième, je ne sais plus lequel c'est, mais il y a.
On oppose un peu souvent les écrans et le papier. Moi j'aime bien les deux et je trouve que c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment une super nouvelle quand ça donne envie de lire et quand ça donne envie de retrouver le papier.
Ouais. Bon, le papier, à l'origine, donnait lieu au cinéma, aux feuilletons, etc.
Bien sûr.
Mais c'était les livres qui inspiraient tout. Et maintenant que ce soit le contraire, je ne suis pas sûre que ce soit si bien.
Ouais,
c'est mieux que rien.
Moi, ça m'a ennuyé, je dois vous dire. Donc, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais ça m'a ennuyé. Je ne suis pas allée au bout du premier épisode, mais je vais peut-être m'y replonger.
Il y a quelques lourdeurs, mais ça s'arrange après.
Bon, bah écoutez,
toutes les séries, j'ai remarqué Netflix, le premier épisode, il y a eu les échecs, le jeu des dames. Moi, je me suis dit, je ne regarderai jamais. J'ai sauté le premier épisode, je suis revenue après, tellement il était horrible. Ouais. Bridgerton, j'ai fini hier, j'ai sauté le premier aussi. Ouais. Donc, c'est souvent, ça met du temps à démarrer.
Bon, on passe à toute autre chose. Bah, avec vous, Sophie, un coup de cœur.
Ah oui, écoutez, vraiment, cette crise aura eu quand même quelque chose de positif, c'est le sentiment qu'ont les Français face à l'entreprise. Ils se sont rendus compte, parce que les Français croient en l'État, et ils ont raison d'un certain côté, mais enfin, on s'est aperçu des problèmes qu'il pouvait y avoir, tous les problèmes administratifs qu'il pouvait y avoir qui sont énormes. Et tout d'un coup, merci les entreprises. Ce sont les entreprises qui ont tenu la croissance, qui ont tenu les permanences dont on a besoin, qui ont fait la vie dans la ville. Ce sont les salariés qui n'ont pas eu peur et qui sont allés, qui ont pris des risques. Ils ont été formidables. Et figurez-vous que les créations d'entreprises ont 848 175 nouvelles entreprises immatriculées en 2020.
Mais c'est quoi une entreprise?
C'est quoi une entreprise?
C'est la vraie question.
Alors, la vraie question, Valérie, est la seule qui m'importe. Oui. C'est quelqu'un qui se met à son compte, qui prend ses risques et qui gagne sa vie.
Oui, enfin, voilà. C'est aussi la création d'entreprises, des entreprises qui ne veulent plus salarier leurs salariés.
Non, beaucoup moins, je comprends ce que vous voulez dire.
Et qui demandent aux gens de monter une entreprise pour pouvoir les payer en tant qu'entreprise.
C'est un phénomène qui existe, c'est pas tellement le cas cette année. Cette année, il y a eu énormément d'entreprises de services qui ont été créées. Donc, ça a boosté, c'est tout bête, mais le clic, les livraisons, etc. Et puis, des vraies entreprises aussi, des start-up qui n'ont pas du tout eu peur de ce qui se passait, de l'informatique, etc. Vous faites allusion à un phénomène et qui est réel, mais qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des artisans, depuis qu'il y a des auto-entrepreneurs, qui n'arrivent plus à vivre, parce que tout le monde se met en auto-entrepreneur sans charge, et l'artisan, il n'arrive plus à payer les charges de ses salariés.
Ah, il y a les charges aussi pour les auto-entrepreneurs,
il y a des charges pour les auto-entrepreneurs,
disons, de façon
mais il n'en empêche pas.
Il y a un quart de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs, c'est pas tout à fait rien.
C'est beaucoup quand même, donc je trouve que vous réjouissez un peu vite.
Le meilleur de Sud Radio Trina Magdine.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans un instant avec la chronique de Walter qui est revenu avec un humour décapant sur l'investiture de Joe Biden. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio Trina Magdine.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Avant de retrouver la chronique de Walter, on va s'écouter un titre du groupe britannique Eurythmics. Et pas n'importe quel titre, hein, puisque le fameux magazine musical Spin l'a décrit comme, je cite, « une chanson d'amour miraculeuse qui est céleste, séduisante, radicale et carrément curative ». Voici « Miracle of Love » sur Sud Radio. Miracle of Love dans le meilleur de Sud Radio, titre indémodable du groupe Eurythmics, extrait de l'album Revenge. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Walter. Jeudi, l'humoriste belge a voulu faire un peu de culture sur les États-Unis, en particulier sur Trump et Joe Biden. Et comme toujours, c'était très subtil et extrêmement drôle. Écoutez. Et ce matin, c'est Walter qui est avec nous. Bonjour Walter, comment ça va bien ?
Ça va bien, et vous-même ? Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Écoutez, j'en suis très
ça va bien, je vais avec votre autorisation, parler un petit peu culture. Je vais essayer d'élever le niveau culturel de
en un mot,
humble
hein.
niveau.
Ça fera du bien.
Je disais la semaine dernière, Cécile, à mon humble niveau, je le précise, je disais que les Français s'intéressaient parfois davantage à ce qui se passe aux États-Unis. Et ben, si j'en crois les chaînes d'information en continu, toute la France, là, hier, était aux aguets pour suivre l'investiture de Joe Biden. On n'est pas directement concernés, mais on est manifestement fascinés. Hein. On est comme des eunuques à une partouze. Parce que je peux vous dire que c'est pas demain la veille que les mecs en Pennsylvanie, ils se lèveront à 6h du matin pour regarder les conférences de presse de Jean Castex.
Okay.
Enfin, je dis Pennsylvanie, mais c'est un exemple.
Oui, bien sûr.
Delaware, par exemple. Hein, oui. C'est bien, Delaware, vous trouvez pas, on dirait une insulte de chez moi. Et rentre chez toi, espèce de Delaware. Je sais pas pourquoi. Petite parenthèse culture. Pennsylvanie, ça veut dire la forêt de Penn. Il y avait un type qui s'appelait Penn, et puis il était dans la forêt. Silva signifie forêt en latin. Il n'y a, ouais. a pas de vanne, hein, mais je trouve ça intéressant.
Oui, voilà. Bon,
c'est comme le nom de Los Angeles. La ville de Los Angeles, vous savez pourquoi elle s'appelle comme ça ?
Non.
C'est parce que l'urbaniste, en fait, le maire a reçu deux plans d'urbanisme. Au départ, il avait le choix pour construire la ville. Un plan avec une structure carrée, vous savez, habituée, bien quadrillée, et plutôt en losange. Et il a choisi la structure carrée en disant « carré, je prends, losange, je laisse ». Voilà, voilà. Alors, j'ai pas regardé l'investiture de... de Joe Biden parce que les commentaires allaient m'énerver. Voilà, je veux dire, la première chose que j'ai entendue en allumant ma télé, c'est oui, beaucoup d'Américains sont ravis que Trump soit parti car il était xénophobe et misogyne. Ce qui n'est pas vrai. Il a déjà eu 3 femmes, dont une tchèque et une slovène. On peut être xénophobe et misogyne quand on s'est marié à 3 meufs, dont 2 d'Europe de l'Est, surtout quand on sait ce que coûte un divorce aux États-Unis.
Oui.
En plus, je suis sûr que les journalistes, les polémistes et même les humoristes, moi je vois, au fond, ça les a bien arrangés d'avoir 4 ans de Trump. Ils auraient bien voulu que ça continue. Ils auraient bien aimé avoir un peu de rap, mais personne n'ose le dire. Je veux dire, un mec qui dit ouais, j'aurais bien voulu que Trump soit réélu, soit il est viré, soit il bosse à valeur actuelle. Parce que quand même, Trump, c'était une mine d'or. Hein, t'es en manque d'inspiration, petite allusion à sa couleur, sa coiffure, et c'est reparti. Et là, il va falloir faire des blagues sur Joe Biden.
Ça va être compliqué.
Parce que Biden, c'est le mec normal qui est là par hasard, parce qu'il fallait quelqu'un de normal. C'est le président normal, c'est le François Hollande du Delaware. Et de toute façon, les anti-Trump, ils étaient tellement anti-Trump que tu mettais en face de lui une aubergine avec un chapeau, ils votaient pour l'aubergine, voire pour le chapeau. Et Biden, franchement, pendant l'investiture, on aurait pu mettre n'importe quel type du même âge avec des dents en céramique, personne n'aurait vu la différence. Hein, je dis ça parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Biden, on dirait le mec qui fait de la pub, de la colle pour dentier. Vous voyez, où il y a un type qui mord dans une pomme en disant « Avec Stéra dents, je croque la vie à pleines dents ». Encore que Joe Biden croquait la vie, honnêtement, il n'a pas l'air antipathique, mais il n'a pas toujours l'air très alerte. Il est essoufflé, il a du mal à marcher. S'il y a un conseil à donner aux Américains, c'est « Ne vous attachez pas trop
». Mais non,
symptômes du Covid sans avoir le Covid. C'est pas bon signe. D'ailleurs, à cause du Covid, il n'y avait pas de foule pour cette investiture. Même le président sortant n'était pas là. Bon, le gars est un peu mauvais perdant. Hein. Tu veux passer une mauvaise soirée, tu joues au Trump, avec Trump au Monopoly. Bref, pas grand monde. Pas grand monde avait envie de venir, sauf quelques officiels, des ambassadeurs, par exemple, de pays à faible budget. Eux, ils sont contents. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer d'imaginer que l'ambassadeur, je sais pas, du Pakistan ou du Bénin, par exemple, à l'hôtel, il pique les pantoufles et les bouteilles de savon pour les ramener à l'ambassade.
Ouais. Oh.
Là, je rigole. Ouais. Non, je rigole, Patrick.
Ah bon.
D'ailleurs, pour ce que j'en sais, l'ambassadeur du Bénin, il est très malin.
Ah bon ?
Voilà. Voilà, j'ai pas de chute. Hein. J'espère que vous avez compris le jeu de mots. Ouais. Je répète, l'ambassadeur du Bénin, il est malin. Et je vous ai livré toutes mes infos culturelles du jour. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus, car comme disait le regretté Pierre Desproges, la culture, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Bonne semaine.
Bon, merci beaucoup, Walter. Merci beaucoup. À retrouver, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr. Il me fait rire, moi, Walter. Il est bizarre, mais il est drôle.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Walter, qui vous fait rire tous les jeudis à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain. Prenez soin de vous et de vos proches et respectez bien le couvre-feu. Excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.